Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un lien entre cette proposition et ton premier sujet, ma chère Lise Ravary.
Oui.
Hein? Parce que toi, tu déplores que, dans le fond, nos services publics sont pas mal encrassés.
Ben, c'est un peu l'impression que j'ai, toi, non?
Ben oui.
Tu constates pas la même chose. Quelle est ta préférée des encrassements?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Cela étant dit, je mets quand même un petit bémol.
OK.
C'est-à-dire que ce qui sort dans les médias, que ce soit dans le cas des garderies, que ce soit dans le cas des écoles, que ce soit dans le cas du secteur de la santé, que ce soit dans le cas de la DPJ, c'est ce qui va pas bien. Moi, je prétends, Lise, que les cas où ça va pas bien, ça reste minoritaire. Puis dans certains cas, même marginal. Je dis pas qu'on doit pas en parler, parce qu'il faut s'en occuper, puis il faut améliorer le système, puis on paye suffisamment de taxes et d'impôts pour avoir droit à un bon service quand on demande à l'État de nous donner le service en santé ou, tu sais, bon, le service qu'on demande pour nos enfants.
Pour lequel on paye.
Ben oui, voilà. Mais il faut faire attention, je veux pas que les gens versent dans le cynisme puis se disent tout ce pourquoi on paye dans les écoles, les hôpitaux et tout le reste, c'est tout de la M, puis c'est tout du pas bon. Faut faire attention.
T'as raison. T'as absolument raison. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, moi, ça m'arrive, là, tu sais, samedi matin, en train de prendre un café, puis tout à coup, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans mon petit monde proche. Puis, à un moment donné, je me mets à penser au système de santé. Je me mets à penser au système d'éducation.
Ouais.
Et là, tout à coup, j'ai comme une espèce de sentiment d'impuissance tellement grand en me disant « Non, mais y a-t-il une façon ou des façons? » Tu sais, tu parlais des urgences.
Oui.
Ça fait combien d'années qu'on parle des urgences? Des siècles, je sais pas, là. Mais ça fait très longtemps. Hein? Ça fait très, très longtemps et c'est toujours pas réglé. Et moi, mon sentiment d'impuissance, c'est que face à certains problèmes, soit à cause de leur complexité, soit à cause peut-être là, d'embûches ou syndicales ou whatever,
Et
que c'est rendu à un point d'ailleurs de complexité que c'est à peu près impossible d'imaginer une solution, pas rod et pancrète, mais une solution là vie réelle.
Ouais, une solution qui va faire une différence pour le patient, qui sera pas juste une construction théorique, là, qui fera pas juste ronronner les administrateurs, puis les ministres, puis les responsables syndicaux, puis je vais te dire, parce que j'ai pas répondu à ta question. Moi, je pense que ce qui me fatigue le plus, c'est la rigidité générale que je ressens un peu partout dès qu'on veut apporter des changements, que ce soit à l'école, que ce soit dans le secteur de la santé. J'ai l'impression par moment qu'on a construit dans les années 60 et 70 un système, une bureaucratie, et on est resté avec les mentalités des années 60 et 70, alors que les technologies, notamment, ont beaucoup évolué, devraient nous permettre de réagir beaucoup plus rapidement, de gérer l'information beaucoup mieux, de prendre des décisions beaucoup plus rapidement aussi. Et c'est comme si, tu sais, on aurait la technologie pour être beaucoup plus agile et souple, avoir des bien meilleurs résultats plus rapidement, mais on est pris avec des espèces de structures complètement calcifiées, fossilisées,
Je te trouve courageux de dire ça parce que dans le fond, ce que tu remets un petit peu en question, c'est le modèle québécois, mais surtout de la façon qui a été appliquée jusqu'à ce jour. Parce que, écoute, la fonction publique au Québec, on le sait, c'est la plus importante au Canada. Peut-être un peu normal considérant qu'on a un plus grand nombre de programmes sociaux, mais malgré ça, puis tu sais, la fonction publique, elle augmente d'année en année. Ça réduit jamais cette affaire-là.
Regarde, je vais te soumettre une affaire, OK? Je vais te soumettre une chose.
Ouais.
Puis là, ça va crier. Là. Je te le dis tout de suite, là, je vais recevoir des textos. Là. Bon.
Chacun son tour.
Écoute-moi bien. La sécurité d'emploi là, dans le secteur du service public, là, dans le secteur de l'État, OK? Ça a été conçu au moment où on avait des taux de chômage assez élevés.
Oui.
OK? Puis on disait, bon, ben si tu t'engages pour l'État, l'État peut pas te mettre à la porte. Essentiellement, là, à moins que tu voles là, ou que tu commettes un geste... Fait que tu travailles pour le gouvernement, tu es assuré de garder ta job pour toujours. Dans un contexte où on est en plein emploi, dans un contexte où on peut changer d'emploi rapidement puis améliorer son sort, est-ce que l'idée de la sécurité d'emploi a encore un sens? Ou est-ce qu'on devrait pas Puis je suis pas en train de dire on l'élimine là puis on discute pas avec les syndicats, c'est pas de ça dont je dis dont je parle. Mm. Mais est-ce que les syndicats seraient ouverts à une discussion où on dirait regardez, la sécurité d'emploi là, elle n'est plus pertinente ou même la règle de l'ancienneté.
Ah, ça,
peut-être qu'on peut la remettre en question parce que tu as des nouveaux qui arrivent avec des nouvelles façons de faire avec une meilleure
connaissance, des nouvelles connaissances aussi,
informatiques, et cetera. Voilà, oui. Qui pourraient rendre le système de santé meilleur, plus efficace. Bon, est-ce que ces principes-là, on devrait pas les questionner, les remettre en question? Puis si on décide effectivement de leur donner moins d'importance ou même de les carrément de les mettre de côté, voici par quoi on pourrait les remplacer. Par exemple, une rémunération axée davantage sur ce qu'on recherche, les formations qui sont le plus en demande, on va les payer plus. Donc ça veut dire qu'on sort d'une convention collective du mur à mur où tout le monde est payé pareil. Tu comprends?
Oui, je comprends tout à fait. Tu sais, Bernard, tu le sais probablement, mais la Suède a vécu un peu les mêmes problèmes que nous, mais ils les ont réglés il y a à peu près 20 ans. Ils ont vu qu'il y avait une limite à ce qu'ils pouvaient faire avec mur à mur, programmes sociaux, le coût et ainsi de suite. Alors, ils sont assis avec tous les acteurs de la société, les syndicats, les entreprises et tout le monde, et ils ont discuté justement. Bon, ça s'est pas fait sans heurts, mais aujourd'hui, en Suède, paradis de la social-démocratie, il n'y a pas, ça n'existe pas la sécurité d'emploi pour les fonctionnaires. Aucun. Le salaire minimum, ça n'existe pas.
En Suède?
En Suède!
Ah bon?
Puis là, je pourrais t'en sortir une liste, là.
Ouais, puis on pourrait parler du Danemark aussi, c'est un autre histoire. Mais ouais. Le Danemark, exactement les mêmes choses que tu viens d'aborder pour la Suède, mais il y a cette idée, justement, tu sais, par exemple, les entreprises peuvent plus facilement mettre à pied quelqu'un, mais si tu es mis à pied, tu as droit à une prestation très généreuse qui peut représenter, mettons, 90 % de ton salaire, mais il faut que tu ailles te faire former après avoir été mis à pied et l'État, en échange, te verse pratiquement ce que tu faisais comme salaire avant d'être mis à pied. Tu comprends?
Mais ça, c'est vraiment des solutions progressives puis ancrées dans le réel. Mais ici, malheureusement, on est un petit peu frileux. Et à chaque fois qu'on ouvre ces portes-là, moi, j'ai essayé dans mes chroniques, etc. À chaque fois que t'ouvres ces portes-là, elles se referment avec un claque sonore, que tout va bien et que c'est des trucs ponctuel, et puis, écoute, on ne veut pas, et tout de suite, on nous met là devant le danger de devenir comme les Américains.
On est des spécialistes du statu quo. On passe notre temps à chialer que ça va, que ça va pas bien, même si, je le répète, c'est, à mon avis, de façon générale, quand on rentre, par exemple, dans le système de santé avec une condition sérieuse, on est bien soigné, mais quand ça va mal, on en parle, puis je le répète, c'est normal qu'on en parle. Alors, arrive un problème, on se dit, on a un problème, ça a pas de maudit bon sens, faudrait régler ça. Et là, quelqu'un arrive avec une solution, puis paf, ferme ta gueule, toi.
Ouais, faut que rien change. Puis moi, j'ai une phrase que j'adore.
Ouais.
Quand rien ne change, rien ne change. Pense à ça.
Oh, c'est profond.
Hein?
C'est très profond.
Mais dans ça n'est plus que ça a l'air.
Non, je sais. Non, c'est très profond. Je ris, mais c'est vrai. Mais c'est, tu sais, dit autrement, on aime ça, soulever problème, mais on n'aime pas parler des solutions. Quand arrive une solution qui remet en question notre confort et notre statu quo, on s'empêche de dire non, je veux pas t'entendre parler.
Et ça, le pire est un peu à venir parce que quand on va se mettre sérieusement à parler d'environnement, il y a bien des affaires qui devront changer et je sais pas si on sera au rendez-vous. Écoute, la fameuse affaire là, des fax, les hôpitaux, puis là, je sais, c'est puis en informatique, on est, je sais pas, pas nous, là, mais au gouvernement, tu regardes, là, tu sais, le bordel informatique que le Journal de Montréal avait fait, la série.
Ben oui.
Écoute, des milliards de dollars gaspillés inutilement, alors que tout le reste du monde, dans le G7, par exemple, semble pas avoir de misère à mettre l'informatique au service de la médecine.
C'est tellement symptomatique du problème. Hein?
Oui, mais écoute, peut-être que la prochaine génération va y voir.
Oui, mais encore faut-il les laisser rentrer dans le système?
Ah ouais, ça, c'est une autre
affaire. Encore faut-il les laisser rentrer dans le système. Bon, là, j'avais dit, là, puis j'aime ça respecter le contrat moral que j'ai avec les auditeurs, j'avais dit que tu nous parlerais de cette idée de limiter la publicité pour les VUS et les camions pour, évidemment, des raisons environnementales. Pose-nous le problème, puis demain, on va élaborer.
D'accord.
On va laisser le temps à notre vaste public de réfléchir à la question que tu poses. Pose la question, puis demain, on va évoquer les voies de solution.
D'accord. Alors, on sait, et si on ne sait pas, je vais vous l'annoncer, que le transport routier, camion, auto, même votre petite Yaris, c'est la source numéro un, du moins ici, de gaz à effet de serre.
Ouais, ouais.
Il y en a qui disent 15 % 20, 25, j'ai aucune idée, mais ça m'apparaît logique parce que des chars, on en a.
Ouais, ouais, les transports, c'est la source numéro un.
Et ils deviennent de plus en plus gros, comme nos maisons d'ailleurs.
Bon.
Et ça, c'est tellement en opposition avec le discours ambiant.
Ouais.
Et certains se disent, est-ce qu'on devrait aborder ce problème-là de la même manière qu'on a abordé la cigarette dans les années 70 et 80, c'est-à-dire interdire toute publicité pour les VUS et les camions, à moins qu'ils ne servent au travail.
Ben là, comment tu vas faire la différence?
Ben, je sais pas.
Comment tu vas faire la différence?
Quelqu'un amène un papier de la construction.
Moi, je pensais que c'était pour dire, on interdit la publicité des véhicules, les gros producteurs de GES, les gros consommateurs d'essence. Mais par contre, s'ils sont électriques, là, on peut en faire la publicité.
Je pense pas que l'électrique, c'est la panacée, mais ça, on s'en parlera une autre fois.
Pas juste une autre fois. On va en parler demain. On va en parler demain parce que là,
d'accord,
c'est un sujet très important.
C'est un sujet important, puis peut-être que là, on peut faire quelque chose et non pas juste chialer autour de la table de cuisine.
Oui, tu en penses? Mais en même temps, il y en a qui vont dire, voulez-vous nous sacrer à paix, là? Voulez-vous, s'il vous plaît, arrêter de contrôler nos vies? On peut-tu décider du modèle de voiture ou de camion qu'on va acheter sans se faire écœurer par le gouvernement?
J'ai une solution pour tout ce beau monde-là qui est frustré.
Ce sera demain?
Non, ça va être très court. Devenez bouddhistes qui, eux, acceptent que la vie est souffrance.
Deuxième partie demain, Mme Révary.
Exactement.
Deuxième partie demain, Mme Révary. Alors là, je veux juste vous dire merci, à demain, Lise. Alors, je veux juste vous dire que le site, là, Data Got You, je pense qu'on le fait planter. Choquez-vous pas si vous avez de la difficulté à y avoir accès. Vous êtes nombreux à vouloir y avoir accès. Fait que essayez-vous, réessayez-vous, vous allez voir, ça va finir par fonctionner. Et ceux qui l'essayent, parce que vous êtes nombreux à m'écrire, il y en a qui ont réussi là à y avoir accès, et puis ils m'écrivent pour dire « Wow, ça a marché! Effectivement, ça a bien fonctionné. » Alors, prenez votre mal en patience, ça va finir par arriver. Après la pause, on va parler du 100 $ donc par patient pour les technologues, c'est leur solution pour diminuer les listes d'attente pour l'imagerie médicale. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur le sujet, on fait l'entrevue après la pause.